Le sang de la cité. Capitale du Sud, tome 1. De Guillaume Chamanadjian. Lu par Maxime Baudouin. La nuit tombait quand les cris des vaincus cessèrent de résonner entre les murs de la cité. Servin avait fait transporter Tissant dans ses quartiers afin qu'il y soit soigné. La Kawane s'apprêtait à se réfugier sous sa carapace, et c'est là que je fis mon apparition. Les chants diffèrent quant à l'enchaînement des événements. D'après Valère, c'est le duc lui-même qui remarqua la trappe dissimulée sous un tapis. Ursin le mielleux soutient que c'est Scolas qui, sentant un courant d'air dans les quartiers d'Adelphe, ôta d'un geste la peau de loup, dévoilant ainsi le passage souterrain. Tous deux s'accordent néanmoins sur le fait que c'est Maître Servin de la Kawane qui se saisit d'une torche et fut le premier à descendre l'échelle. Quand il arriva en bas, ce fut pour constater qu'il n'y avait qu'un escalier, descendant toujours plus bas dans les entrailles de la cité. D'un geste, il balaya les conseils de prudence des quelques hommes qui l'avaient accompagné, rappelant les légendes effroyables au sujet des tréfonds de la ville. Scolas parvint à le convaincre de progresser en deuxième ligne, derrière lui, et ce fut le vieil ingénieur qui, après une lente et angoissante progression souterraine, fut le premier à éclairer une lourde porte en bois. « Messire Duc, cesse-toi la diablerie du fourbe souffleur !» lança un homme d'après Ursien, démontrant ainsi le peu de maîtrise qu'avait le poète de la forme de l'hexamètre dactylique. « N'entrez point, je vous conjure, de hideux démons pulluloient sous nos pieds !» Mais Servin ne l'écouta pas et se mit à attaquer la serrure avec son épée, insouciant du bruit qu'il faisait et qui pouvait attirer d'autres mauvais démons en ce lieu. Après maints efforts, il entendit le métal ployer et enfonça la porte. À une, puis deux, puis trois reprises, jusqu'à ce que, dans un vacarme assourdissant, la serrure cède et que le duc s'effondre dans une cellule obscure et malodorante. L'attaque fut instantanée, si bien qu'il n'eut pas le réflexe de se saisir de son arme tombée au sol. Des griffes lui lacérèrent le visage, des dents mordirent son poignet. Il hurla de douleur, maudit les démons qui étaient parvenus à le blesser alors que le souffleur ne lui avait même pas infligé une égratignure. Il parvint à se mettre sur le dos pour se défendre des assauts furieux des deux créatures qui l'assaillaient. Suffisamment, en tout cas, pour que Scolas et un autre homme entrent à leur tour et fassent fuir les monstres en agitant leurs torches. Bien sûr, Ursien n'entre pas tant dans les détails. Je tiens ceci de Scolas, qui se précipita pour relever son duc, tandis que les créatures se terraient dans un coin de la cellule, le plus possible à l'abri de la lumière. Et c'est tremblant de colère et d'indignation que Servin détailla les choses qui se tenaient sous ses yeux. Un garçon et une fille, nus et couverts de boue et de leurs propres excréments. Des enfants beuglant de terreur, cachant leurs yeux blanchis par les ténèbres derrière des doigts griffus et terreux. Le duc se saisit du garçon par le bras. Il le plaqua contre un mur de la cellule et le souleva du sol. La créature se tortilla, se débattit, rua, chercha une prise de ses ongles, mais ne trouva que l'épaulette en cuir du duc. Servin demanda de la lumière, éclaira le visage crotté du gamin en le maintenant de force par les joues. L'espace d'un instant, Scolas crut qu'il allait lui planter son épée dans le corps, mais le duc relâcha soudain son emprise. Il était là. Des ordres furent donnés. De nouveaux cris retentirent. Les soldats n'eurent aucun mal à maîtriser de si pitoyables créatures. Et c'est ainsi que ma sœur et moi émergeâmes pour la première fois à la surface de la cité.